Au château d'Anguille sous rocher, c'est le jour traditionnel. Le duc Alfred a organisé une chasse présidentielle. Au canard sauvage de son élevage, on fera la fête à toutes ces bêtes que le duc a fait installer savamment dans ses bois la veille pour beaucoup d'argent. Arrive haletant, suivi du corps diplomatique. Après un cardinal armé jusqu'aux dents, trois jeunes cadres dynamiques, un syndicaliste, quelques monarchistes, un prix littéraire, de hauts fonctionnaires, sortant d'un pays affolé, un vieillard, quand sonne les trompes à court sur son brancard. Les coups de feu claquent de tous les côtés, un teckel émerge en boitant. D'un épais nuage de fumée, on l'avait pris pour un faisan. Le duc en déroute abat le casse-croûte qu'un prêtre profane avait sous sa soutane. Les plombs transpercent riaient des camemberts, un sanglier se rend les deux pattes en l'air. Que vois-je donc paraître à l'orée du bois? Le vieillard ne voit plus très clair. On va faire un sort à cette bête-là qui ressemble assez à un cerf. On met sa civière auprès de la lisière. Il prend l'escopette, trouve la gâchette. Il vise et tire, ainsi finit la carrière du ministre des Affaires étrangères. Quand le vieillard crie à la ligne, nous l'avons, l'ambiance devient pesante. On remet des notes de protestation extrêmement violentes. Mais quoi qu'on en pense à cette distance, il faut reconnaître c'est un coup de maître. Et d'ailleurs le ministre sera, confie-t-on, fréquenter les membres de l'opposition. La nuit tombe au château et la paix revient, la fumée de poudre envolée. Le cardinal vient bénir le butin, le pauvre gibier fatigué. L'allée asthmatique, les canards physiques, la chasse s'arrose et puis on propose d'offrir le butin car on est généreux à l'orphelinat des enfants du bon Dieu. D'offrir le butin car on est généreux à l'orphelinat des enfants du bon Dieu. Décider à cultiver la fraise géante pour vaincre enfin cette peur que j'ai toujours eu des plantes, et poussé par le désir de me faire admettre parmi les jardiniers comme collègue et maître, pour prouver au monde qu'en plomberie je suis champion, j'installais moi-même le système d'irrigation. Il me restait un mètre à creuser jusqu'à la serre, lorsqu'une fontaine noire jaillit de la terre. Une eau si grasse et sale, ce n'est pas de l'eau, ma parole. Ça a le goût, ça a l'odeur, mais oui, c'est du pétrole. Et pendant que mes doigts examinaient la matière, je pensais à ces vers d'un poète berbère. Heureux celui qui, au fond de son jardin, trouve du pétrole et en fait profiter les copains. La fraise géante était vite oubliée. À la place, je remplissais des bols, des bidons et des tasses. Tous mes voisins affluaient, attirés par le pétrole, munis de jerrycans, de marmites et de casseroles. Un vieillard oublia ses rhumatismes et indiqua des places aux autos et vendit des lots de tombola. Déjà un photographe de presse et un journaliste précédait de peu le premier car rempli de touristes. Un commerçant installa pour accueillir ce trafic. Dans ma serre, un stand de frites et un WC public. Un redoutable cœur d'enfant vint apparaître pour me chanter cette ovale sous ma fenêtre. Heureux celui qui au fond de son jardin trouve du pétrole et en fait profiter les copains. Mon jardin jardin devint bientôt un lieu de pèlerinage. Déjà il figurait sur les prospectus de voyage. Je vis plein d'amis disparus venir remplir leurs bouteilles et se comporter comme si on s'était quitté la veille. Même le pape m'envoya un message de paix et m'offrit le vélo qu'Elinerex lui avait donné. La mafia et plusieurs fabriques d'automobiles me proposaient des accords commerciaux fertiles. Un impresario choisit mon jardin pour y faire un festival de jazz et de rock en plein air. Je reçus même un apéro de la part d'Annabelle et elle avait brodé ses mots sur la dentelle. Heureux celui qui au fond de son jardin trouve du pétrole et en fait profiter les copains. Je pris donc un brevet sur ma méthode de forage. J'installais des citernes dans la cave et le garage. J'y projetais une raffinerie tout d'urgence lorsqu'un de mes technologues ébranla ma confiance. Votre nappe de pétrole, dit-il sans merci, c'est le pipeline qui mène de Bordeaux à Paris. C'est ça la vie et ça ne manque pas de surprise. Alors je me souvins de ma première entreprise et le destin qui se moquait à l'instant de moi voulait voir mes efforts botaniques couronnés de succès. Car engraissé de frites et arrosé de bière, la fraise ressortait par le toit de la serre. Une fraise grosse comme une maison, aide-moi à la porter et nous la partagerons. Château blanc, des chimères passent devant le hublot. Des voiles de cheveux d'ange caressent l'air et ses franges, et dans un tourbillon renaissent à nouveau. Je ne saurais décrire ce désir de m'enfuir qui me fait quitter la terre et sillonner les airs. Est-ce pour chercher d'autres dimensions, pour voir ce qu'il y a là derrière l'horizon, ou peut-être comme Ica pour m'évader d'une prison? Les grêlons crépitants, les orages étourdissants, entraînés, ballottés, là en la ronde effrénée. Des aiguilles, des cadrans et des voix en asillant me guident sûrement dans le ciel déchaîné. Saurait décrire ce désir de m'enfuir qui me fait quitter la terre et sillonner les airs. Est-ce pour chercher d'autres dimensions, pour voir ce qu'il y a là derrière l'horizon, ou peut-être comme Ica pour m'évader d'une prison? D'argent, des bois au soleil couchant, les silhouettes des vides dans le soir d'été. Planer dans l'air cajoleur, en atterrissant l'odeur de foin coupé le long de la piste éclairée. quitté la terre et sillonné les airs. Est-ce pour chercher d'autres dimensions, pour voir ce qu'il y a là derrière l'horizon, ou peut-être comme Ica, pour m'évader d'une prison? J'aimerais bien être mon chien, bien au chaud dans l'édredon, je m'observerais froidement, à m'agiter, paniquer chaque matin, et je me rendormirais à ce spectacle fatigant, puisque mon unique centre d'intérêt serait mon ventre, que mes seuls efforts seraient mon sommeil et ma digestion. Mes recherches spirituelles mèneraient à ma gamelle. J'aurais pour seul sujet de tourment et de méditation la morphologie de mon os quotidien. Quelquefois j'aimerais bien être mon chien. Certains jours j'aimerais bien être mon chien. Je ne me creuserais plus la tête en forme de fuseau. Et en disposant d'un nez comme le sien, je reclasserai le monde à l'échelle de mon museau. En personne haute ou rampante, en bonne ou malodorante, et quant aux lécheurs contre qui j'ai toujours une dent, j'attendrai qu'ils me caressent, puis je leur mordrai les fesses, ce que je ne fais que dans des cas extrêmes actuellement. Car l'état de ma denture est très moyen. Quelquefois j'aimerais bien être mon chien. Certains jours j'aimerais bien être mon chien. Les mensonges et les ragots me laisseraient indifférents. On ne m'attraperait plus comme un crétin dans ces discussions idiotes qui me font perdre mon temps. Qu'on discute, qu'on débatte, je lèverais une patte pour montrer mon intérêt, pour apporter mon argument. Plus d'importe une visite, si ça sonnait, j'irai vite aboyer derrière la porte et je dirai poliment: désolé, mais vous êtes venu pour rien. Le patron est sorti et moi, je suis le chien. Un jour j'aimerais bien être mon chien. J'aurais des tas d'avantages sans une ombre de soucis. Et tout compte fait, j'accepterais fort bien de manger dessous la table et de dormir au pied du lit. Plus d'impôts, plus de contraintes, de devoirs, d'ennuis, de craintes. Mais en tant qu'homme, il me reste un talent qui lui fait défaut. Un don qu'il m'envie sans doute, ça le range et le déroute, car de nous deux, je suis celui qui peut ouvrir le frigo. Et je savoure ce geste quand je vois que parfois mon chien aimerait être moi, que parfois mon chien aimerait être moi. D'avoir un coup de fil de François, il s'agit de cette émission qu'on doit enregistrer jeudi, et lundi commenceront les répétitions. Et il a même pu m'avoir les musiciens que je lui avais demandé. D'ailleurs il paraît que c'est la même équipe qui était là l'année passée. Puis il m'a demandé de tes nouvelles, et il a dit que sa femme allait mieux. Qu'un de ces soirs, il faudrait qu'on s'organise un gentil petit dîner chez eux. Et juste quand j'ai voulu raccrocher, il me dit comme ça, comme en passant, Dédé Sorensky s'est flingué hier matin dans son appartement. Ce n'est pas vrai, mais nom de Dieu, c'est une blague, ça ne peut pas être vrai. C'est impossible comme histoire, c'est trop bête, mais pourquoi l'aurait-il fait? Ça, c'est le genre d'incident qui se trouve en dernière page du journal. Entre la météo et le tiercé, parmi les faits divers les plus banals. Et ça se lit d'un œil distrait, et en fin de compte, on s'en fiche éperdument. Ça n'arrive jamais qu'aux autres, et d'ailleurs, ce n'est vraiment pas bien passionnant. Et du même coup d'œil, on survole l'horoscope et les annonces en baillant. Et Dédé Slovinski s'est flingué hier matin dans son appartement. Je me souviens parfaitement de lui sans avoir été de ses familiers. Sa moustache rousse et raide, un monument de bonne humeur et de gaieté. Avec son pantalon vassé, les souliers qui promettaient des orteils immenses. Il ressemblait à un croisement entre Obélix et un commandant d'Air France. Je me souviens qu'il m'a écrasé la main en me saluant le premier soir. Je me demandais quand il jouait du piano avec ses deux battoirs. Mais comment fait-il pour ne pas se coincer les doigts entre les touches en jouant? Et Dédé Slovinski s'est flingué hier matin dans son appartement. Tout ce que je sais de sa vie, c'est lui-même qui a dû me le raconter. Et il ne m'a vraiment pas laissé l'impression d'un tourmenté, d'un angoissé. Il me parlait de sa famille, de quelques bons gueuletons, de ses projets. Et les parties qu'il s'offrait avec le train électrique de son fils cadet. Et qu'en Indochine, il était parachutiste, qu'il avait été blessé. Il disait que rien au monde et que personne ne le ferait plus sauter. À part peut-être le chef d'orchestre pour état d'ébriété permanent. Et Dédé Slovinski s'est flingué hier matin dans son appartement. Puis je l'ai rencontré encore une fois en juillet sur le périphérique. J'ai vu un dingue derrière moi qui faisait des appels de phare frénétiques. Et à la porte de Saint-Cloud, il descendit de sa coccinelle rouillée. Et il m'a tapé sur l'épaule à m'en faire souvenir pendant tout l'été. Il m'a payé un coup à boire et nous avons commencé à parler métiers. Et entre deux demi, il m'a dit: je sais pas combien de temps fin de publier. De la musique à moi c'est drôle, paraît que ça marche pas, vraiment le truc dément. Et Dédé Slovinski s'est flingué hier matin dans son appartement. Tu sais, je me dis qu'au fond toute l'histoire ne nous regarde même pas. On ne le connaissait qu'à peine et on n'a pas de reproche à se faire, je crois. Et pourtant, quand j'y pense, j'ai une impression de froid et le cœur gros. C'est comme si j'avais gagné en lui un ami pour le reperdre aussitôt. Comme s'il était de ma famille depuis ce coup de fil de tout à l'heure. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce sacré vieux farceur? Plus je me pose de questions et plus j'essaie de comprendre, moins je comprends. Dédé Sauvince qui s'est flingué hier matin dans son appartement. Au fond de mon âme, il brume dans mon univers. Ce soir vacille la flamme de mes espoirs, et en moi c'est l'hiver. Vous, mes amis, ne dormez pas encore, ne me laissez donc pas tout seul ce soir. Que la tristesse qui s'instaure ne nous soit qu'un prétexte à boire. Buvons, chantons, veillons ensemble, gueulons que nos rires et nos voix résonnent, que les murs en tremblent et que se couvre le silence en moi. Il neige au fond de mon âme, brume dans mon univers. Ce soir vacille la flamme de mes espoirs, et en moi c'est l'hiver. À ceux qui m'ont aimé et me renient, tant de mensonges et trop de bruit, on se met le doute et l'envie, l'orgueil nous a désunis. Et à ceux qui de leur mémoire m'ont rayé en me condamnant, j'aimerais tant qu'ils puissent croire que je n'ai pas pu agir autrement. Il neige au fond de mon âme, il brume dans mon univers. Ce soir vacille la flamme de mes espoirs, mais en moi c'est l'hiver. Buvons à ceux absents à notre table et dont nous ignorons le sort. Que le vent leur soit favorable et qu'il les ramène à bon port. À nous que ce toit nous abrite dans la paix et la liberté. Que ceux d'entre nous qui le quittent s'en souviennent sans rancœur ni regret. Et une brise printanière fond la neige dans mes pensées. Buvons jusqu'à l'aube, mes frères, et alors, ivre, je m'endormirai. De kangourou devant la véranda, tragédie follement contemporaine, d'après le livre de Juan Anton Bola, qui signe également la mise en scène. Ce dramaturge jette une valeur sûre chez les initiés et les critiques, dont certains voient en lui le maître du parasymbolisme diurétique. Mais voilà, le rideau se lève, le décor symbolise un trou béant, et longtemps la vision du vide alterne avec la vision du néant. Mais enfin, de la fosse d'orchestre grimpe le héros en plein désarroi. Il est dépourvu de paroles et dévêtu, cela va de soi. Puis il crie « Ah ! Qui vois-je ici paraître ?» Ces mots-là ont un redoutable impact. La question pèse lourdement sur le public et ainsi finit le premier acte. Et tout ce qui raffole de culture et bouillonne d'érudition apprécie dans l'acte premier la verve ainsi que la densité de l'action. Apprécie dans l'acte premier la verve ainsi que la densité de l'action. Mais cruellement, le rideau se lève, le drame continue sans pitié. Le héros s'est effondré mystiquement et il tient des propos orduriers. Quand le destin inexorable lui envoie une espèce de grosse fée, les deux font quelques galipettes, ensuite ils crachent sur la société.
Bravo, une autre hurle un critique ému, profondément bouleversé, car il retrouve dans le drame ses fantasmes et ses envies refoulées. Pendant ce temps, on voit un traître s'approcher du couple en rampant, mais il s'endort à mi-chemin, et certains spectateurs en font autant. Le héros prend un grand sac en plastique et il emballe le traître penaud, et il arrose le tout de peinture orange, ainsi finit le second tableau. Et tout ce qui raffole de culture et aime l'apocalyptique apprécieront dans le second acte un profond message sociocritique. Apprécieront dans le second acte un profond message sociocritique. Le troisième acte amène la métamorphose du traître bien emballé. Le suspense est insupportable et l'atmosphère est survoltée. La métamorphose se fait dans le sac et le silence le plus total. Heureux ceux qui ont amené leur casse-croûte ou bien un thermos dans la salle. Arrive un cœur masqué qui scande, pitié, mais on va s'enrhumer. Ils auraient pu mieux se couvrir car le théâtre est subventionné. En zigzagant surgit le pape et danse à l'apogée dramatique. Un pas de deux avec le héros et c'est le dénouement tragique. Quand le pape comprend que le héros n'est nul autre que son impresario, il menace d'ôter ses vêtements, mais la pitié tombe le dernier rideau. Et tout ce qui ne serait pas en train de paisiblement s'ennuyer, ce sont des insomniaques incurables ou des abonnés qu'on a couillonnés. Ce sont des insomniaques incurables ou des abonnés qu'on a couillonnés. Surprend en train de songer, lorsque tes yeux me regardent sans me voir au fond, j'essaie vainement de deviner tes pensées et les doutes qui se cachent derrière ton front. Je sens bien que déjà le procès m'est dressé, mais avant de juger en ma défaveur, sache qu'une blessure que je t'ai infligée a laissé des cicatrices dans mon cœur. Souvent je réentends les mots que je disais, comme si je surprenais une conversation. Était-ce vraiment les propos que je tenais? Aujourd'hui je ne leur trouve ni sens ni raison. Mais nul mot injuste n'a été prononcé sans que j'en ressente aussi une douleur. Parce qu'une blessure que je t'ai infligée a laissé deux cicatrices dans mon cœur. Est-ce donc une mauvaise loi qui nous mène, qui nous conduit à traiter si cavalièrement ceux à qui il est facile de causer de la peine, qui se rendent vulnérables à nous aimer vraiment? Mais s'il m'est arrivé de t'avoir humilié, j'ai dû doublement souffrir de mes erreurs. Parce qu'une blessure que je t'ai infligée a laissé deux cicatrices dans mon cœur. J'ai dû te faire souffrir en apprenant que nul bien, que nul bonheur n'est acquis pour toujours. Qu'on ne peut demander sacrifice plus grand que celui qu'on s'engagerait à faire à son tour. Pardonne maintenant si tu peux pardonner, oublie le pire de moi pour le meilleur. Parce qu'une blessure que je t'ai infligée a laissé deux cicatrices dans mon cœur. Capable de faire du mal à une mouche, je ne suis ni un voleur ni un escroc.
Bien des gens me traitent comme un personnage de jeu ou comme un charlatan et se moquent de moi tout haut. Ouvertement, ils rigolent, ils gloussent et ils se gandolent. Mes amis me serrent la main en se tordant les voyous. Avec les marchands de tripes, les flics se fendent la pipe. Le bougnat pleure de joie en ameutant tout le bistrot. Il s'écroule et un fou rire le secoue, puis le secoue. Je suis météorologue, voilà tout. Je suis prêt à avouer que parfois quelques prévisions on peut laisser subsister un léger doute. Ma tempête de neige en juillet manquait de flocons. Ma vague de chaleur pour Noël n'est arrivée qu'en août. Mes troubles de l'apophyse et ma vertèbre démise présageaient pourtant un fort anticyclone des Açores. Tant de pronostics honnêtes n'ont connu que la défaite, sauf le 2 mars 65 où j'ai prévu dans mon rapport du verglas au Groenland, la canicule à Tombouctou. Je suis météorologue malgré tout. Ah, il fut un temps où une belle voulut bien me croire, et Dieu sait si mes promesses étaient sincères. Mais un cumulonimbus vint vite assombrir mes espoirs, et avec l'orage est venue une dorsale polaire. Vous, les météorologues, êtes tous des démagogues, et vos sentiments changent avec la pluie et le beau temps. Sur ces paroles acides, elle me laissa livide, seule avec mes baromètres, les aiguilles à ouragan. Et mon sismographe indique des remous, puis des remous. Je suis météorologue, voilà tout. Et un beau stratus plane sur mon cœur depuis ce jour, et transforme tous les jours en jours de pluie. Pourquoi l'imperméable que je porte toujours? Ce n'est pas par crainte que mes pronostics soient imprécis. Les caprices atmosphériques m'ont rendu mélancolique, puisqu'ils m'ont coûté l'amour et la confiance de ma belle. Tristement, je me trimballe sous les averses locales, en parlant du temps avec ma grenouille sur son échelle. Elle au moins, elle comprend tous mes soucis, car elle est météorologue, elle aussi. Je venais juste de reposer l'écouteur, et pendant un bon moment, je restais raide de peur. Pour sombrer dans une léthargie fataliste, j'étais tombé dans le piège d'un journaliste. Ces mots menaçants me revenaient comme un écho. Nous viendrons jeudi pour un reportage photo. À 5 heures précises dans votre demeure, il nous faudra au maximum 3 petits quarts d'heure. On prendra quelques photos de vous sans vous déranger, et vous raconterez comment tout a commencé. Jeudi arriva, il n'était pas midi, quand ils frappèrent à ma porte sans merci. Une journaliste avec un air de cannibale, un photographe traînant une énorme malle. On a un petit peu d'avance, dérangerions-nous? Ça sent délicieusement le cassoulet chez vous. Je m'assois près de vous et vous pouvez sans hâte finir votre repas pendant qu'on s'acclimate. Je proposais de partager, tous deux ont accepté. Eh bien racontez donc comment tout a commencé.
Eh bien, c'était... Stop, dit la dame. Attendez, monsieur Marcel, vous pourriez peut-être vous remuer.
Qu'est-ce que vous attendez donc pour prendre cette scène? Monsieur Marcel poussa un long soupir, la bouche pleine, et déballa ses caméras tout en ruminant, sans quitter les yeux sans assiette un seul instant. Et vous, lui
la dame en dépeignant mon visage. Occupez-vous un peu de votre maquillage et peut-être auriez-vous un vêtement mieux repassé. Puis vous raconterez comment tout a commencé. Quand je revins, ils avaient fait un sort au Grand Marnier. Ma femme apporta la troisième tournée de café. Le photographe mâchait de la tarte aux cerises en cherchant pour ses projecteurs une autre prise, car il ne restait à l'endroit de son premier essai qu'un énorme trou noir puant le caoutchouc brûlé. Et pour fixer ses lampes et attacher ses câbles, il planta les clous dans les murs. C'est plus durable, disait la dame, et vous n'êtes pas à quelques trous près. Racontez donc un peu comment tout a commencé.
Un bon pain c'était, mais oui, mais vous vous répétez.
Tiens, j'y pense, j'ai un petit coup de fil à passer. Ne bougez pas, je sais où est le téléphone. Peut-être auriez-vous l'indicatif de Lisbonne.
Dans le salon, le photographe hurlait comme un fou d'avoir aplati son pouce à la place d'un clou.
Il en perdait l'équilibre et fit une culbute, entraînant la tringle et les rideaux dans sa chute. La dame susurra, je rappelle juste un ami, puis après, vous me raconterez comment tout a commencé. Le photographe s'était mis hors de combat. Ils ne tarderont pas, me consolais-je tout bas. Mais l'espoir de voir repartir un journaliste avant le dîner s'avère peu réaliste, car ils se mirent à table, la serviette autour du cou. C'est vous ce que ce job d'en fait, soit qu'en pensez-vous. Et si par hasard vous passiez par la cuisine, je reprendrai bien un petit peu de votre terrine. Et après le dessert, passons au salon pour causer et vous raconterez comment tout a commencé. Elle se leva et marcha en zigzagant, et d'un effort sublime atteignit le divan. Mais non, sans briser mon beau vase renaissance, il était plus tout neuf, toi encore une chance.
Saisi donc d'une rare violence,
elle le tenta de me raconter son enfance. Le photographe était saoul comme une bourrique, ronflant et poussant des petits cris hystériques. La dame ouvrit deux yeux d'hippopotame mal léché. Bien fini, ami. Récapitulons. Je me levais sans bruit pour ramasser les débris. J'éteignis le feu qu'un mégot avait mis au tapis. Mes hôtes dormaient dans des restes de nourriture. Le salon me rappelait l'intérieur d'une boîte à ordures.
La journaliste s'éveilla et dit en bâillant,
on a bien travaillé, on va vous laisser maintenant. J'ai pu me faire de vous une idée objective. Quant aux photos, il y en a plein les archives. Deux mois plus tard, j'appris en feuilletant la revue l'histoire bouleversante de mes débuts. Sonnant dans mon manteau, je dors encore debout, mes valises déjà à la main. Malgré tout le café, les yeux pas en face des trous, j'essaie de me faire au lendemain. Je revois la nuit passée comme à travers un voile épais, et son nom me revient. Puis quelqu'un me crie, allez, il est grand temps, et je m'en vais. Mes valises toujours à la main. Une journée nouvelle, une page blanche à remplir. Quelques trains m'emmènent quelque part. Vers d'autres villes, d'autres espoirs, d'autres souvenirs. Vers une rencontre de hasard. Sans les jamais, sans les toujours, une rencontre à temps perdu, sans hier, sans lendemain. Et dans quelques heures, je repartirai vers l'inconnu, mes valises toujours à la main. «
c'est toujours un retour et un départ en même temps, sans reproche, sans malentendu, sans regret, sans chagrin, sans être surprise en pensant adieu, en disant bienvenue. Car les déceptions seront vite oubliées dans la poussière, sur les bords des chemins. Et il est bien trop tard pour regarder encore en arrière, les valises déjà à la main. Demain, avant que ne vienne l'aube, je m'en irai, que je le veuille ou non. En gardant un souvenir amer, je ne sais si c'est grâce ou bien malédiction, de le voir s'arracher pour chercher une destinée que jamais on atteint. Peut-être est-ce ma soif de liberté qui me fait errer, les valises toujours à la main. Ma soif de liberté qui me fait errer, les valises toujours.